Bernard Hébron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Peut-être pour commencer, votre regard sur cette année. On n'est pas tout à fait encore à la fin de l'année, mais on a quand même une bonne idée de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été le plus dur cette année, finalement? C'est de garder le cap sur une allocation d'actifs déterminée.
Le plus dur, ça a été deux choses. Premièrement, effectivement, de garder le cap alors qu'on a un certain nombre d'hypothèses qui semblaient assez solides, qui se sont trouvées invalidées. On pourra revenir dessus. Et puis deuxièmement, garder le cap, mais en même temps s'adapter aux nouvelles réalités, parce qu'il y a vraiment des choses qui ont profondément changé, qu'on ne pouvait pas forcément imaginer au 1er janvier de cette année et qui maintenant s'imposent comme des réalités et qui sont là pour rester quelque temps. Donc, savoir en même temps rester sur les principes d'une gestion un peu raisonnable et puis en même temps revenir sur quelques habitudes de très très longue date qu'on avait tous en tête et qu'il a peut-être fallu un peu revisiter.
Le plus étonnant, ça a été quoi pour vous? Ça a été ce qui s'est passé par exemple en Allemagne, les matières premières. Qu'est-ce qui a été le plus peut-être perturbant?
Quasiment, s'il y a peut-être une chose qui est assez cohérente dans tout ce qui se passe ces derniers temps, c'est les matières premières. Il y a beaucoup d'offres, il y a de moins en moins de demandes, les prix baissent. Jusque-là, tout va bien. Alors, effectivement, ils baissent comme toujours, jamais au moment où on s'y attendait vraiment. Autant les raisons qui sont derrière, elles sont bien connues, autant le timing, c'est à peu près impossible à définir. Et puis, ça a baissé très très fort pour certaines matières premières, au premier rang desquels le pétrole, et ça en dépit de ce qui généralement crée des tensions, en particulier la géopolitique, et en particulier la géopolitique dans des endroits où on produit des hydrocarbures. Donc là, ça n'a aucun effet, c'est vraiment un rapport offre-demande qui a pesé sur les prix des matières premières en général. Donc ça c'est vraiment une chose qui s'explique bien. Ce qui était vraiment, je pense, prévu par personne, c'est les taux d'intérêt là où ils sont aujourd'hui. Et quand on dit les taux d'intérêt, c'est un petit peu tous les taux d'intérêt. On peut commencer par le plus évident, c'est les emprunts d'État qu'on a en zone euro. À l'heure où on parle, l'emprunt d'État allemand à 10 ans rapporte 71 centimes, 0,71%. Je répète, c'est bien sûr 10 ans, donc ça fait plus grand-chose. Et si on maintenant réduit les maturités, qu'on arrive sur du 2 ans, les investisseurs doivent payer pour financer les États, dont la France, par exemple. La France s'endette à 2 ans sur un taux négatif. Ça veut dire quoi? C'est un peu paradoxal. Ça n'avait pas existé dans le passé. Jusqu'à présent, quand quelqu'un s'endettait, il devait rendre un petit peu plus d'argent à celui qui lui prêtait qu'il en avait emprunté. Donc, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est pareil. On a toujours un taux d'intérêt, sauf qu'il est négatif. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'États considérés comme sûrs rendent un petit peu moins d'argent à la fin, donc au bout de 2 ans qu'au début. Donc ça, c'est inédit, hein. C'était pas encore vu. Et évidemment, plus on se rapproche de maturité courte, et typiquement sur tout ce qu'on va appeler les fonds monétaires et ce qui va être de quelques semaines à 3 mois de maturité, on est vraiment maintenant installé sur des taux négatifs, ce qui pose un certain nombre de problèmes à beaucoup d'investisseurs, qui peuvent être tout type d'investisseurs. Ça peut être des particuliers qui, eux, vont le ressentir via les placements. Typiquement, le livret A, on voit qu'il y a beaucoup de sorties, mais parce qu'on a des taux d'intérêt nominaux qui sont très faibles. Mais même des investisseurs institutionnels ou des sociétés qui ont besoin de placer leur trésorerie. Une société, historiquement, qui plaçait sa trésorerie, elle attendait une seule chose, c'était de ne pas perdre d'argent.
Oui, là.
Aujourd'hui, elle a un petit problème, c'est que si elle le met dans le placement le plus sûr et traditionnel qu'elle a toujours utilisé, le fonds monétaire, elle est quasiment sûre de perdre un peu d'argent. Donc, on a une remise en question de choses qui étaient acquises depuis quasiment toujours.
Donc la hiérarchie des placements, quelque part.
La hiérarchie des placements, et ça, c'est vraiment, on matérialise maintenant dans les faits la distorsion qui a un petit peu été voulue par les banques centrales, qui entre guillemets, nous oblige, quand je dis nous, c'est tous les gens qui ont de l'argent à placer, quels qu'ils soient, des professionnels ou des particuliers, qui obligent à faire autre chose que du monétaire, autre chose que du livret A, etc. etc. Et quoi d'autre? Ce que font les investisseurs, c'est un peu n'importe quoi. Et tous les autres actifs deviennent de plus en plus chers, simplement parce qu'il n'y a plus de rémunération de ce côté-là.
Alors certains ont pu dire qu'effectivement, notamment l'investissement action était à un moment donné par défaut. Il y avait cette volonté des banques centrales. On peut dire aujourd'hui aussi que compte tenu de l'environnement de taux, vous l'avez rappelé, que quelque part, il n'y a pas 36 manières d'aller chercher du rendement et d'aller dans les prochains mois.
Voilà. Si on prend les classes d'actifs de rendement traditionnel, les obligations, ça donne ce qu'on appelle un rendement fixe, un revenu fixe, des titres à revenu fixe aujourd'hui. Donc ça donne bien un revenu fixe, mais qui tend vers zéro. Donc ce n'était pas l'objectif. Vous avez maintenant à peu près la moitié de la dette, des emprunts d'État de la zone euro qui rapportent moins de 1%. Donc ça commence à plus faire grand-chose. L'immobilier, ça a toujours été aussi un actif de rendement. Vous avez beaucoup de caisses de retraite, d'assurance qui ont des gros parcs immobiliers. Pourquoi? Pour générer des loyers, quoi, qui sont là de manière régulière. Mais il y a même chose, toujours offre-demande. Il y a tellement de demandes sur l'immobilier dans les grandes villes européennes et américaines, que les prix montent et que du coup les loyers montent pas aussi vite et que les rendements s'effritent. Il y a une seule classe d'actifs dont les rendements n'ont pas bougé, voire plutôt augmenté sur les derniers trimestres, ce sont les actions. Typiquement sur des actions de la zone euro, on a des dividendes qui sont quelque part entre 3 et 4%, voire un peu plus sur certains qui distribuent des forts dividendes. Mais bizarrement, ça n'intéresse pas grand monde. Et les flux sur les placements actions restent très modestes, voire négatifs dans bien des cas.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même peut-être cette peur, ou en tout cas cette question de revenir ou pas sur les actions, pour en tout cas y compris des gros investisseurs qui peut-être ne peuvent pas augmenter autant la part action qu'ils souhaiteraient, et du coup ils sont un peu coincés aujourd'hui.
Voilà, on a deux types de contraintes qui sont là depuis longtemps, mais qui restent là et qui sont bien installées. C'est des contraintes réglementaires, effectivement, pour des assureurs, des caisses de retraite, etc., qui ne peuvent pas avoir beaucoup d'actions. C'est interdit par leur règlement et par les méthodes de calcul de ce qu'on appelle l'adossement actif-passif, etc. Donc elles sont très limitées. Il est probable qu'elles restent structurellement sur des niveaux très bas d'investissement actions. Et puis, vous avez des gens qui pourraient très bien acheter plein d'actions, mais qui n'en veulent pas, c'est les particuliers. Ils restent sur des placements qui leur semblent plus sûrs, quitte à gagner presque rien maintenant. Mais surtout pour éviter la volatilité, qui s'est encore bien matérialisée cette année. On a eu une année qui a été en moyenne assez peu volatile, mais on a eu quand même un ou deux épisodes un peu mouvementés dans le courant de l'année. On a vu immédiatement, dès que ça a commencé à baisser beaucoup, des flux très très forts sortir, alors qu'il n'y avait pas eu d'entrée très, très importante avant et qu'il n'y a toujours pas eu d'entrée très importante après. Donc il y a vraiment une asymétrie. On veut vraiment éviter toutes les baisses, quitte à éviter aussi toutes les hausses. Donc on est vraiment là-dessus, on a une espèce de glaciation sur le paysage des placements un peu partout dans les pays occidentaux.
Pour vous, peut-être en conclusion, qu'est-ce que ça amène pour justement la gestion diversifiée, là où vous allez aller peut-être justement dans la période? Vous avez parlé de ces marchés actions, on voit des entreprises qui effectivement se portent pas si mal malgré l'environnement, la crise actuelle. Comment ça évolue chez vous?
Alors, on a effectivement le rendement, voilà, là où on le trouve aujourd'hui, c'est sur les marchés actions. Tout le reste, ça sert dans nos portefeuilles à simplement équilibrer le risque, à pas tout mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, on a globalement un marché actions qui performe très très bien depuis longtemps. C'est les États-Unis, ça devient cher. Donc là, c'est vrai que continuer à ajouter des investissements sur les États-Unis, ça se complique. C'est de plus en plus cher. On a un marché actions qui est très peu cher et qui le reste pour un certain nombre de raisons. C'est la zone euro et l'Europe en général. Et là, on a des rendements importants. Des choses à faire de ce côté-là, clairement, en gardant en tête qu'il y a un certain nombre de caractéristiques des marchés européens, du type le secteur financier qui est important. Et puis aussi le secteur de l'énergie et des matières premières qui est important, auquel il faut peut-être traiter un petit peu à part. Pour le reste, on a quand même des valorisations qui sont attractives et des rendements. Et puis on a un petit peu à l'autre bout de la planète, du côté du Japon et de l'Asie émergente, là des valorisations qui sont faibles en général par rapport au reste du monde ou par rapport à leur propre historique. Et beaucoup de choses à faire de ce côté-là, avec toujours cette abondance de liquidités. Puisque maintenant, vous savez que la Banque centrale du Japon, non contente d'acheter des emprunts d'État et des obligations privées, va acheter des actions. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Et donc là aussi, fort soutien pour ces marchés là-bas. Donc une diversification comme ça, toujours en gardant en tête combien ça coûte, ce qu'on achète, les valorisations, et puis les perspectives d'appréciation compte tenu du contexte général.
Merci Bernard Ebrant.